Mais sinon, dans ce qu'elle présentait là, la croyance chrétienne,
elle fait bien la transformation.
Il est jusque-là. Et là, notre point de méthode est tout autre. Il s'agit d'une évidence telle qu'il est anormal de trouver une allusion écrite. C'est ça que j'essaierai d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsque l'hébreu va commencer à expliquer sa foi à quelqu'un d'autre, alors dans son bréviaire il y a un nom de le livre. Mais on ne peut pas trouver dans le livre pour les hébreux une allusion à ça. Parce que le livre pour les hébreux ne parle qu'aux hébreux. Et s'il avait à leur dire, qu'est-ce que c'est être hébreu, c'est pas des hébreux qui s'adressent. C'est-à-dire, ce qui serait inquiétant, c'est que la Bible commence par dire, vous savez, premièrement, il y a un monde à venir. Ce ne serait pas notre livre. Il est normal que vous trouviez une indication de ce genre dans le livre que les hébreux utiliseront pour parler aux autres. À qui il faut l'enseigner. Mais que cela ait été enseigné aux hébreux, ce serait normal. Donc il est normal qu'il n'y ait pas d'allusion. Vous voyez ? Non, mais je voudrais bien que vous voyez qu'il est... C'est bien de la pensée cohérente. Je veux dire, c'est pas une astuce. C'est quoi Chayar la Géoula, quel Sagadou, Aharit et Yavim qui est un peu. Triad avec-il, du majeur. Je veux dire, ce n'est pas une stratégie pédagogique. Et nous voulons le décrire tout de suite. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez, par oui dire que c'est comme ça que nous commençons. Il est bien évident qu'elle s'adresse à des hommes qui comprennent que ça veut dire au commencement. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Et que ça veut dire le ciel et la terre. Nous, on ne comprend pas. Vous voyez, si nous faisons une analyse très rapide, on s'aperçoit immédiatement que le concept du commencement ne fait pas partie de la raison humaine. Et ne peut pas faire partie de la raison humaine. Sinon, informé par une révélation. Ce concept au commencement est irréductible à la pensée logique. Enfin, à la pensée rationnelle. Non, dans le sens contemporain du terme. C'est-à-dire, nous chargeons ce terme de toute une aura biblique pour le prendre comme une évidence rationnelle. Mais ce n'est pas une évidence rationnelle. Or, la Bible sait très bien. Vous savez qu'il arrive à la Bible de dire des choses évidemment intelligentes, donc elle est toute intelligente. Mais la Bible sait très bien que l'homme qui va lire ce livre ne comprendra pas ce qu'il y a écrit. Et déjà, dans ce verset, c'est déroutant. Qu'est-ce que ça veut dire au commencement? Si j'y crois pas, je ne comprends pas. Mais ça veut dire Dieu. Pour un lecteur contemporain de lui. Ah, il faut des références orales à Dieu d'Israël, à Abraham, à Isaac, à... Il faut toute une histoire. Je suis allé, vous avez. Il faut toute une histoire, tout un calendrier, on est renvoyé à une histoire. Mais à simple lecture, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Aucun théologien ne pourra expliquer qu'est-ce que ça veut dire créer pour une pensée qui n'est pas informée de tradition. Parce que qu'est-ce que ça veut dire créer? Ex nihilo nihil. C'est un acte de foi. Tant qu'on n'en a pas la connaissance. Mais cette connaissance ne vient pas par la volonté, ne vient pas par l'intelligence, ne vient pas par la exégèse. Ne vient pas à Saint-Esprit. Dès qu'on a compris que la Bible est incompréhensible, sinon pour la conscience hébraïque, on a commencé à apprendre l'essentiel. Et que la conscience hébraïque, c'est pas un parmi les langages, c'est pas un parmi les discours. C'est une manière d'être qui a été vécue d'une révélation qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut prendre les choses au sérieux. Pas seulement prendre au sérieux, mais les choses au sérieux. Vous savez, je dis souvent que lorsqu'on étudie la méthode expérimentale, alors on sait très bien que la première chose à ne pas faire, c'est dénaturer l'objet d'observation. On va essayer de faire la loi de ce qu'on observe. Alors si on commence par transformer le phénomène en observance, on n'a pas de chance d'arriver à la vérité. Alors, ce livre se présente comme une révélation. Donc il faut l'étudier comme tel. Et si on l'étudie avec d'autres postulats, ça mène nulle part. Parce qu'on a commencé par dénaturer l'objet de l'étude. Ça va être la deuxième chose pour l'aménagement. Bon, pour le même coup, d'où nous étions partis. Que et une très indigne naturelle, de quel sujet nous étions partis? Oui, mais pour faire toutes ces parenthèses de méthode, je reviens sur le principe de méthode, nous parlons des émissaires, qui prétendaient que la Bible n'enseigne pas la résurrection de mort. Alors très rapidement, j'ai indiqué que c'est le fond du sujet, elle n'a pas enseigné. C'est là que nous sommes partis sur le problème d'évidence de l'Église. Parce qu'elle s'adresse aux Hébreux, c'est tardivement, des siècles déjà après l'arrêt de la prophétie et de l'évidence de l'expérience de la révélation, qu'il a été nécessaire qu'un enseignement soit restitué à cause du doute qui vient de l'éloignement de la source de la révélation. C'est très tardif que les maîtres d'Israël, les rabbins, auront à rappeler, lorsqu'il y a eu l'hérésie, que ensemble, on croit quand on est hébreux. Mais aux Hébreux, il n'y avait pas à le dire. Ce serait suspect, si vous voulez, que la Bible, ça veut dire que c'est un livre de théologie. Or, Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas un professeur de théologie, c'est le créateur du monde. Et c'est pas un fondateur de religion. Vous vous rendez compte que le Dieu de la Bible fasse de la théologie, c'est évidemment suspect. Ça, ça commence avec les évangiles. Ben, c'est une religion. Le Dieu des évangiles est un fondateur de religion. Si j'ose dire, c'est quand même pas si simple que ça. Mais en tout cas, au niveau de l'identité hébraïque, ça doit être compris radicalement. Que Dieu existe, ça n'a pas à être à dire à un hébreu. Ou que l'histoire d'Israël ait un sens, on dit pas ça à un hébreu. On dit ça à un hébraïsant, à la rigueur. Quand on appelle ça, je prends le mot de
l'hébraïque.
Il y a eu un point de néantisation. Et oui, c'est cela l'importance d'une tradition, c'est d'arriver à être plus fort que la durée du temps. L'histoire d'Israël est tellement longue que la durée, sa propre durée, c'est un handicap. Avec le temps, alors beaucoup de choses se dissolvent à l'échelle individuelle, bien entendu. Donc il faut récupérer les évidences au niveau non pas du livre, mais de ce qui est dit à celui à qui le livre a été donné. Et d'ailleurs, le livre a été donné comme substitut de la mémoire. Donc, c'est un autre chapitre, mais c'est ce qui est très évident. Et donc, j'ai lu à la manière dont lisent les Sadducéens, pour ajouter les points précis pour le développement de l'analyse. Et effectivement, la lettre explicite de la Bible ne parle pas de ça, parce qu'elle n'a pas enfant. Mais, comme vont le montrer les Drachos de la Gemara, on ne peut pas lire un seul verset sans avoir en présence d'évidence que bien sûr il y a triadométique. Vous comprenez? C'est ce que les rabbins pharisiens vont essayer de mettre en évidence dans leur dialogue avec les Sadducéens, et ils vont choisir un verset qui puisse les convaincre. C'est un peu le sens de l'analyse que vous allez avoir dans la suite. C'est pas n'importe quel verset qu'ils vont choisir. Ils vont choisir un verset qui puisse les convaincre. Et ce sera intéressant pour nous de comprendre à quoi les Sadducéens étaient sensibles pour en fin de compte admettre un des versets des pharisiens. Et chaque fois que le Rav prend acte que le Sadducéen n'est pas convaincu par la dracha qu'il a faite, il en fait une autre. Parce que ce qu'il cherche, c'est à quelle évidence le Sadducéen reste sensible pour admettre qu'effectivement il y a Shlatamitim dans l'enseignement filigrane de toute la Torah Shebichtav, alors que dans l'enseignement comme nous avons dit, dans l'enseignement Pshat, si vous voulez, il n'y a pas à avoir cette indication. C'est une implication que les Drachos vont mettre en évidence, et on va chercher l'implication à laquelle on pourrait être sensible lorsqu'on est Sadducéen. Qu'est-ce qui est arrivé aux Sadducéens? Ils ont été coupés de tout en restant pratiquant, croyant à leur manière, et ils ont été coupés d'identité d'Israël. Et effectivement, ils se sont perdus. Vous voyez comment des options idéologiques peuvent, en fin de compte, faire perdre cette identité. Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a cru à cela qu'on n'est plus Israël. C'est parce qu'on n'est plus Israël qu'on commence à croire à cela. On commence à croire à cela, entre guillemets, à cela qui fait perdre C'est, on va prendre acte que c'est ainsi que s'exprime cette syncope d'identité qui a donné lieu au salvucéisme en particulier. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui est capable de croire à d'autres choses ne croit pas en cela, c'est qu'il y a un problème. Alors moi, je cherche à comprendre pourquoi il ne croit pas en cela si déjà il croit en d'autres choses. Je me suis quand même mal exprimé, mais je comprenais un peu c'est qu'il y a un obstacle. D'où vient cet obstacle? Alors cet obstacle, on va diagnostiquer, c'est notre règle générale de l'étude aujourd'hui, dans ce point d'insertion entre l'identité individuelle et l'identité collective de l'hébreu, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous comprenez? Cet homme est capable d'être un grand croyant d'une Avodah Zarah, d'une autre chose que l'identité d'Israël. Mais il n'est plus Israël. Et lorsqu'il dit qu'il ne croit pas en telle ou telle chose, il exprime quelque chose de beaucoup plus profond qu'un problème de catégorie théologique. Il exprime un chinouille, comment dire, altération d'identité. C'est-à-dire, nous arrivons très rapidement, mais je voulais qu'on suive la démonstration dans la Gemara. Au fait qu'en réalité, la Gemara peut exclure complètement la catégorie habituelle de l'excommunication. Personne ne peut faire perdre à quelqu'un d'autre ce qu'il a par droit de naissance, si c'est un niveau d'existence, ou par droit d'adoption, si c'est une conversion. Donc, aucun tribunal rabbinique ne peut excommunier quelqu'un, c'est-à-dire lui enlever son frère de faire la Gemara, parce que c'est le créateur qui l'a donné. Tout ce qu'on peut faire, c'est probable que le chélek en question a disparu. Mais qui le dit? C'est l'accusé qui le dit, c'est pas le tribunal. Vous suivez la note. Nous ne montrons pas non plus si simple que ça, bien entendu. Mais enfin, je vous dis tout de suite à quoi je pense. Peut-être que le seul fait pour le tribunal de se réunir et de prendre acte, c'est la cause déterminée. Et qu'en fait, quand on n'a pas pris acte, tout est suspendu. Et donc, en fin de compte, par un autre biais, c'est quand même le tribunal qui a enlevé ce qu'elle a fait là-bas, en entrant acte, qu'il a disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez suivi le raisonnement. Manque de patience. Alors, c'est bon qu'il y a des choses graves qui se sont passées et qui font perdre patience au tribunal. On récupère. Mais c'est jamais au niveau des idées. Purement et simplement. C'est toujours le fait de prendre acte que. C'est au niveau de l'identité que ça se passe. Encore une fois, je ne pense pas à ce niveau, mais c'est l'analyse générale que je vous ai suivie sur la Gemara.
Ça peut être plus
facile, mais non. Ça pourrait, mais pas plus spécial. Il ne faut pas faire ça trop amateur. Voilà, est-ce que vous voulez vraiment un gros mot? Vous savez que d'après un midrash des kabbalistes, postérieur à ce midrash, il est prévu déjà dans la faute de Caïn. Vous savez comment? On vous a cité ça, il faut. Les côtes de Darla, Katsumia, Zafinus. Benakot, c'est ce côte de côte de Darla. C'est son nom hébreu, Benakot, le fils de Lévi. C'est un nom pour roman du Moyen-Âge, mais ça fait Lévi. C'est un peu une belle genre. Bien, en tout cas, pour revenir. Et Dardar, c'est Midar et Dar, de génération en génération. Bien, en tout cas, pour revenir à notre problème, Aaron a donc créé un métier minatora. Première lecture, c'est celui qui dira la Torah n'enseigne pas la résurrection des morts. Donc, premièrement, il dit une bêtise, parce que c'est vrai, la Torah n'enseigne pas la résurrection des morts. Et elle n'a pas enseigné la résurrection. Mais elle ne parle que de ça, en parlant d'autre chose. Et elle donne la marche à suivre pour ceux qui vont ressusciter. Et en prenant le verbe dans son sens strict, pour ceux qui vont à la résurrection. Bon, ça veut dire, de façon très générale, je ne vais pas faire de doménétique pieuse, mais enfin, c'est inévitable. Si je prends au sérieux ce que la Bible commence par enseigner, dès le premier mot, elle ne parle que de ça. C'est vraiment Dieu qui a créé le monde. Alors ça ne s'arrête pas là-bas. Un point. Ça va de soi. Si ça va pas de soi, c'est que je ne suis pas le lecteur de ce livre. j'ai tout court-circuité, si vous voulez. Enfin, jusqu'à un niveau où il faut ouvrir les yeux, ça va de soi. Et la contradiction entre une destinée humaine qui s'arrêterait à la mort biologique et ce que raconte la Bible, qu'il y a un créateur des univers, elle est trop grande pour qu'un hébreu n'y prenne pas garde. Un hébreu ne peut pas ne pas lire dans au commencement de faire le ciel et la terre que va le créer. Ça va de soi. Parce que si ça va pas de soi, c'est l'hébreu qui va pas de soi, c'est pas peut-être. Peut-être c'est cohérent. Enfin, l'hébreu, je ne parle pas de la langue, mais je parle de cet héritier des hébreux qui s'est pris le pied dans une fille. Bon. Et nous devons voir que, en fait, on va devoir revenir immédiatement avec la Gemara et la lecture de Rachid. Il faudrait un peu modifier ce famille de Saint-Justin. Il a quand même dit quelque chose d'un peu plus intelligent que ça. Et pas seulement cette énorme bêtise dont on entend avec l'autre. Alors, je vous propose de faire une proposition, terminer la Mishnah très rapidement et d'étudier. La Gemara très vite. Peut-être qu'il faut demander sur demain, ça donne la peine, mais on peut aller jusqu'à 1h15 peut-être. Oui. Bon. Alors, premièrement, on va aimer une créa d'Amédimina Tova, c'est la catégorie de la résurrection des morts. Ben, Torah Mina Shamaï, littéralement, la Torah n'est pas du ciel, ça veut dire la Torah n'est pas révélée. C'est la manière de la Mishnah de dire révélation. Elle vient du ciel. Ki Mina Shamaï, Shmiracha et Kolon. Apikoros, on va traduire l'athée provisoirement. En fait, ça veut dire épicurien, mais pas dans le sens classique. L'athée. Et puis, Rabbi Akiva ajoute, Rabbi Akiva Omer, a coré l'isfari marizonim. Et aussi, celui qui lit dans, littéralement, les livres extérieurs, isfari marizonim. Je vous dis tout de suite de quoi il s'agit des apocryphes, qui ne sont pas dans le canon biblique d'après la tradition. Ils ne sont pas non plus dans la tradition protestante, mais ils se trouvent dans le Bible catholique. Je vous dis pourquoi il faut comprendre de cette façon, mais il n'y a pas d'autre manière de comprendre. D'abord, parce qu'on a des citations dans la Gemara, on demande par exemple quoi. Et on cite Ben Sira, l'Ecclésiastique, pas l'Ecclésiaste. Vous connaissez ce livre-là des apocryphes, qui s'appelle l'Ecclésiastique. Et alors, comment la Gemara peut citer un verset de Ben Sira? Alors elle l'a vu, et voilà c'est interdit de dire. Vous comprenez que la conversation en parlant, donc il faut demander ce que ça veut dire celui qui dit. Alors en tout cas, premièrement, de façon plus générale, ça ne veut pas dire, même si certains moralistes vont jusque-là, ça ne veut pas dire celui qui lit des livres extérieurs à la Bible. C'est pas obligé de dire. N'importe quoi, un roman. Vous avez par exemple des écoles des moralistes, vous parlez de ça, qui interdiront de lire autre chose que le livre pieux. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de livres chitsovim, c'est-à-dire extérieurs au canon biblique. C'est vrai? Le sens en étant interdit de les considérer comme des livres à lire, dans le sens de les religions. Mikra. Mikra, c'est la mise par écrit de ce qui a été révélé. C'est ça le mikra. À Corée, qui lit, c'est-à-dire considère comme mikra. Pour lui dire que ça de présent. Si je considère qu'un livre comme par exemple le livre de Tobie, c'est une belle histoire, c'est un livre de piété, mais d'après les catholiques, ça fait partie de la vie. D'après les juifs, pas. Les cas des deux par les hébreux originellement, c'est notre problème. Mais dans tous les cas, il y a une hazaka, si vous voulez, que la tradition juive, qui sait de quoi elle parle lorsqu'elle parle du mikra. Et alors, considérer un livre comme le livre de Tobie, comme faisant partie du mikra, ça veut dire considérer le degré d'inspiration d'un livre comme Tobie comme de même nature qu'un livre comme celui d'Ézéchiel. C'est-à-dire que je considère Tobie comme Ézéchiel. Ça veut dire donc que je considère Ézéchiel comme Tobie. Ça veut dire qu'au fond, je renie que Ézéchiel est déjà revenu, puisque je n'y vois que ce que je vois en Tobie. C'est-à-dire une histoire que. Et c'est, vous avez suivi le. Non, une fois de parler de ça, avec un théologien chrétien, il faut aussi lui faire comprendre ce que nous entendons par là, parce que je ne veux pas, vous savez, la tradition catholique a besoin des apocryphes pour faire la soudure entre le prophète et les apôtres. Alors il y a 400 ans entre. Ils ont besoin de ça pour faire la transition. Les protestants n'ont pas besoin, c'est notre problème. Et alors, l'idée, c'est de faire comprendre que nous ne pouvons pas considérer ces livres comme des livres révélés, parce que ce ne sont que des livres de foi. Ce sont des livres que n'importe qui va dire des choses de piété, on va dire que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. C'est différent d'un peu. Alors, je vais donner l'exemple suivant. Imaginons une Bible avec le Nouveau Testament où il y aurait les pensées de Pascal à la hauteur des évangélistes. Il est bien évident que les catholiques refuseraient. Oui, pourquoi? Mais ça ne veut pas dire que les pensées de Pascal ne sont pas un livre de foi. Mais les catholiques, eux, considèrent que les évangiles sont autre chose. Eh bien, par analogie, on peut comprendre ce que je veux dire. Le livre d'Autopie, c'est un livre de foi, et d'ailleurs très mal écrit. Donc, c'est une autre histoire. Là, je veux dire. Mais c'est pas un livre, c'est pas un mythe. Donc, à corré, visvali, artisani, celui qui est corré, ça veut dire qu'il considère comme mitra. Parce qu'en fin de compte, ça veut dire que le reste du mitra aussi ne considère pas comme mitra. C'est clair? Verrohej à la Makka, et celui qui, littéralement, ça veut dire se plaint d'une plaie, mais ça veut dire qu'il y a des pratiques de type magique de dire des versets de l'achash. De l'achash, ça veut dire susurrer, murmurer. Avec comme une sorte de pratique magique, en disant, en citant ce verset, « Vechola mahala, ma chère sainte, ibn Israël, moi, si m'en écha, qu'en yachem profecha, toute la maladie que j'ai mise en Égypte, au temps de la sortie d'Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, car je suis Hachem, ton guérisseur, ton médecin. » Et ça voudrait dire que celui qui tend à une hérésie en opposant la plaie qu'il a à une promesse de Dieu qui aurait pu le tuer. En plus, puisqu'il y a un lochesh, ça veut dire ce temps de pratique. Abacha Oulomé, Abacha Oulajou, Afarot et Tachem de Diota, même celui qui épère le nom de Dieu par ses lettres, c'est-à-dire qui divise l'unité des quatre lettres. Donc il porte atteinte à l'unité des mots. On s'arrête là. Ensuite, la fin de la Mishnah, c'est trois rois et quatre qui ne veulent pas voir, catégorie comme jusqu'à présent, non aussi pas vers le monde à venir, mais on va s'arrêter là, j'espère qu'on arrivera à boucler ce programme dans la semaine, de voir quelques textes de chacune de ces catégories. Nous avons ensuite la première, Entriat Améti Minator. Alors, Gemara, vous suivez sur la Gemara ici. Récolta l'âme. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est-à-dire, quelqu'un a dit à Homer, Entriat Améti Minator. La Torah n'enseigne pas la résurrection de l'homme. Qu'est-ce qu'a dit la vie? Pas insurge. Un nom encore plus fort, explose. Mais Kolkar, Lama. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, on lui enlève de la Halif à Ramana, pourquoi? Parce qu'il a dit une bêtise. Donc il faut changer le sens du mot à Homer. Est-ce qu'il y a des textes? Alors, ce que je vous propose comme lecture, c'est pas simplement il a dit. Ah ouais. Mais ce que signifie le fait de dire quand on parle de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il formule le principe de sa conception de Dieu. Il formule le principe de sa conduite dans la vie. Il formule le principe de son identité. Ah ouais. Et non celui qui proclame. Voilà comment je suis. C'est ça en quoi je crois, mais voilà comment je suis. Ah ouais. Celui qui va trouver dans cette formule, être à ta méthode, le principe de son histoire dans la vie, celui-là est mort révélé que la main. C'est bien clair. Vous comprenez que nous sommes quand même à la hauteur des Tanaïs et des Amoraïs. Il est bien évident, ça va de soi. Quelqu'un a dit des mots avec sa bouche. Ces mots véhiculent une hérésie. Oui, mais c'est parce qu'il dit. Parce que si vraiment il était heureux, il ne dirait pas comme ça. Nous restons dans la cohérence de la vie. ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est la cohérente mentalité de la Mishnah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire que la Mishnah va excommunier quelqu'un qui a dit une bêtise? Vous découvrez, c'est pas juste, cette histoire-là. On va convaincre qu'il a dit une bêtise. Mais est-ce que le fait de dire une bêtise est à la hauteur de quelque chose d'aussi absolu? Le fait que Dieu a créé un monde et que dans ce monde il y a des destinées, que l'histoire a fait que certaines lignes de ces destinées ont la revoir, ou alors parce que quelqu'un a dit 4000 ans après une bêtise théologique, on va lui enlever une donnée métaphysique. Ça, pas grave. Vous voyez ce qu'il y a dans cette trois mots d'Agamora, l'école d'Afra. De quoi tu parles? Il a fait le travail de par nature. Et tu l'enlèves parce qu'il a dit quelque chose. C'est d'abord ce qu'il a dit que ça ne marche pas. Donc, à Homer, ça veut dire autre chose que simplement la bouche. On ne va pas du tout juger de ce qu'il a dit. On va simplement prendre acte qu'il a dit des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il a formulé le principe de sa conduite dans l'histoire. Alors, il va aboutir de lui-même à un haïr du Olam. Et c'est lui qui va s'interdire d'y aller. Il dit, alors on prend acte. Il dit comment il est. On prend acte qu'il est avec la difficulté de tout à l'heure. Peut-être que le fait de prendre acte va cristalliser les choses. Donc il ne faut pas prendre acte, sauf s'il y a à prendre acte. C'est une dimension très importante des vertus dans la tradition juive. C'est le minimum commun de toutes les vertus, c'est la foi. Et on verra pas. La première chose qu'on dira de Dieu, c'est qu'il est Eretapai. Ça veut dire, et c'est ainsi que le monde est dans la durée. C'est la volonté de Dieu, c'est parce qu'il nous fascine. Sinon, il ne durerait pas. Sinon, il y a à chaque étape du monde suffisamment pour provoquer du jugement. Et si vraiment il n'y avait pas une patience, et bien le monde ne durerait pas tellement. Et je ne parle pas seulement du journal, je parle du monde. Et par conséquent, il ne faut jamais précipiter un tri. Il ne faut jamais précipiter un jugement. Et au bout de tout, comme dit l'habitant du Toscane. Et donc c'est dangereux de provoquer le jugement, et sauf si on arrive à des nécessités. Lorsqu'il y a une loi faite, lorsque l'histoire d'Israël est en danger, on se compte. Mais on ne se compte pas avant, parce qu'il y a patience. Je pense que c'est surtout, mais il n'y a rien de plus fort que le repentir. Et par conséquent, quand il y a possibilité de repentir, eh bien, on ne se communique pas. D'ailleurs, vous comprenez bien que ça n'existe pas. Parce que c'est pas dans le même monde, c'est pas dans la même donnée. D'un côté, il y a une proposition théologique, et de l'autre côté, il y a un être métaphysique. C'est pas le même niveau. Donc, ce Haomer doit être mieux défini. C'est pas qu'il a dit, mais il a exprimé qui il est.
Oui, parce que justement, à propos de prendre acte, peut-être que justement, quand on prend acte, il y a un jeu qui est une collective. Parce que c'est. Parce qu'apparemment, prendre acte, c'est faire entrer dans la mémoire.
Oui, ça veut dire donner une existence métaphysique à ce qui était une virtualité. Effectivement. Bien entendu, nous ne pensons pas à Spinoza, mais se priver de Spinoza, il fallait le faire. Là, il a fallu. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si on doit éclairer par cette illustration. Je vous signale d'ailleurs que peut-être nous aurons à rééditer un très important article qui n'a pas paru cette année, qu'a écrit notre maître, M. Vauvert, sur le cas de Spinoza. Il faut que vous soyez informés de la réalité. C'est un moment de l'histoire juive. Alors je vous conseille de lire cet article qui a paru dans l'Évidence il y a quelques années. L'Évidence n'existe plus d'ailleurs, qui nous a peut-être connu dans notre enfance. Mais on réunira cet article, ça vaut la peine d'être connu. Il faut savoir ce qui s'est passé en l'Évidence. Et en tout cas, pour question d'information, avant tout, on ne peut pas traiter de ce problème avec uniquement l'enthousiasme. Il faut aussi être informé. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a une grande veille de la législation. Et lorsque quelqu'un dit ce qu'il pense de la vérité, on croira que c'est ça qu'il pense. Donc, il n'y a pas de faute, sinon... Et... On sait d'ailleurs de lire à ce sujet le deuxième chapitre des chemins pratiques de Rambam, où il se demande dans quelle partie de l'âme, dans son vocabulaire, il y a faute ou mérite. Et il dit finalement, c'est au niveau de la volonté que ça se passe. Les fautes, c'est les fautes de la volonté. Et il dit, il y a un doute en ce qui concerne l'intelligence. Est-ce qu'il y a des fautes de l'intelligence? Fautes dans le sens moral, de la pensée. Est-ce que penser quelque chose, ça peut être un mérite ou une faute? Alors, il replie, il y a un doute. Lorsqu'on se réfère à d'autres textes de Maïmonide, cette fois dans le Mishneh Torah, avant c'est la seule ce qu'il dit. Il y a des cas où on peut considérer que une erreur est une faute. Vous comprenez? C'est clair la distinction de ces deux termes, erreur. Est-ce qu'une erreur peut être une faute? Vous allez dire oui quand on s'en tête. Non, ce n'est pas la réponse de la tradition. Si quelqu'un dit je pense que la vérité de la Bible, c'est ça, et il dit une énorme bêtise, mais il pense. Comment est-ce qu'on dit tu penses? Mais s'il dit au nom de la tradition, j'enseigne que la vérité de la Bible, c'est ça, et c'est une erreur, alors là on prend. Vous avez vu la. Est-ce que c'est vrai la communauté? C'est-à-dire que, d'abord, parce qu'on lui dit, on était collègue, il a dit, ah, j'ai pas de collègue. Parce que c'est ça que ça veut dire. Je pense que, donc, alors il n'a pas de collègue. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous voyez qu'en fin de compte, le minimum commun de toute faute de l'intelligence, dans la mesure où une erreur est une faute, c'est l'accueil. Ce qu'on appelle l'erreur. Et donc, celui qui dit, je pense pas comme mes collègues, et c'est moi qui ai raison, alors on prend acte. Et ça s'appelle dans le langage de lui, Zaken Mamru. Zaken Mamru. Zaken, ça veut dire il pourrait être un des collègues. Zaken, mais il est Mamru. Il est rebelle, littéralement, je traduis littéralement, ça dévitalise. Ouais, Zaken Mamru. Je pense que c'est clair. Le simple fidèle a le droit d'être simple fidèle. Mais celui qui prétend légiférer au nom de la vérité et qui est hérétique, alors on prend acte. Il est plus dans le camp. Vous voyez, c'est à quel niveau c'est. Donc, on ne peut pas dire à Omer, à moins que ce soit le rabbin lui-même qui dise cette erreur. Alors, c'est tout. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, voici quelle est la réponse à la demande. Il faut justifier la Mishnah. C'est tellement énorme. À cause d'une hérésie, on enlève la dimension d'éternité. Alors que Dieu a créé le monde. Et non, ça vaut la peine. Vous voyez la différence. Encore une fois, c'est pas un juge, c'est pas un théologien qui a créé le monde. Comme un juge ou un théologien peut enlever la dimension de l'éternité. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un problème comme ça en France actuellement, avec Monseigneur Lefebvre, mais vraiment, je pensais pas à ça. Alors, il faut justifier. Alors voilà comment on démarre ces temps. Tana, on enseigne. Ou quand parle du triatamétique, le ficha, lui, il y a le chéré, le triatamétique. Voilà comment la Gemara justifie. Lui a nié, kafa, a nié la résurrection des morts, c'est pourquoi il n'aura pas de part à la résurrection des morts. Mais c'est pas de ça qu'on parle, d'ailleurs. Tout le monde parle. Mais, ça ne dit pas la difficulté. On a compris le mécanisme. Mida, kanigel, mida. On lui fera comme il dit qu'il est. Mais c'est pas de ça qu'on parlait. Où est la difficulté ici? Réalisons les avant de la demande. Où capable de triatamétim, les fichas ou yélo chélek, les triatamétim, mais pourquoi la Mishnah ne parle pas de chélek ou de triatamétim? Elle parle de chélek par la montagne. Vous voyez? Bon, c'est la première difficulté que nous avons étudiée. Je vois qu'on va déborder demain parce que il est déjà. Parce que là, on va prendre 10 minutes quand même sur ce point. Je refais le raisonnement. Regardez. La Gemara veut expliquer quoi? C'est pas le tribunal rabbinique de la Mishnah qui va enlever le chélek à la Ramban de cette année. C'est qu'il y a un principe qu'il a joué. C'est lui-même qui fait de lui-même le fait d'avoir perdu son chélek à la Ramban. Il a pris comme règle de conduite que la Torah ne mène pas à la résurrection des morts, sa Torah ne mènera pas à la résurrection des morts. C'est-à-dire que c'est lui qui se fait ce qu'il se fait. Nida, Tenege, Nida. C'est-à-dire, la mesure qu'on lui applique, c'est la mesure que lui-même a proposée. Mais comment le raisonnement est formulé ? Nous, Kafar, Vitria, Tamedim, lui a nié la résurrection des morts, c'est pourquoi il n'aura pas de part à la résurrection des morts. Mais c'est pas ce qu'on attendait. On attendait, c'est pourquoi il n'aura pas de part au monde de la vie. On attendait Shredek, là, on n'en a pas. Et nous avons un raisonnement avec Shredek, Vitria, Tamedim. C'est clairement le vrai de tout le monde ? Je veux dire en français. Alors, comment on peut restituer le raisonnement ? Quel est le problème ? Quel est... Bon. Non, non. La Mishnah a dit « Velu shel la'em chelek la'olam haba ». Comment il n'y a pas d'olam haba ? Je ne reviens pas en arrière de la Mishnah. Mais comment la Gemara explique ça ? Elle appelle ça « chelek b'kriya d'amedim ». Pourquoi elle a changé l'expression ? Vous avez perçu la difficulté ? Non ? Allez, il faut que j'aille au tableau alors. Voilà la Mishnah. Ve'elu she'en la'em chelek la'olam haba. Première catégorie de ceux qui n'ont pas chelek la'olam haba, ha'omer en chelek. Ça c'est la première catégorie. Et comment le raisonnement de la Gemara ? Vous, celui-là, Kafar, Bitriatamitim, il a nié la résurrection des morts, mais Ficha, Loïe le Chelek, Bitriatamitim. Mais on attend le Ficha, Loïe le Chelek, là on l'a pas. Pour que le raisonnement marche. Ça y est, c'est vrai ?
Bon.
Donc c'est valable. Il lui a enlevé son révélateur. Pas du tout. C'est lui-même qui s'est enlevé. Comment ? Il a nié X, il n'aura pas X. C'est lui qui s'enlève de X. Oui, mais le X m'a changé en X'. C'est clair ? D'ailleurs, on enlève sa prime.